Aujourd'hui, c'est la dernière fois que nous allons parler de Malachie. On arrive au bout de la série de Malachie, c'est la septième, c'est la dernière. Et je trouve que ça tombe super bien parce qu'en fait, la dernière partie de Malachie, les derniers versets, ils sont en lien étroit avec le début des évangiles et en particulier avec le début de l'évangile de Luc. Et Luc, c'est l'évangile qu'on va un petit peu étudier à partir du début de l'année. Je dis un petit peu parce qu'il y a tellement de choses dans Luc qu'on ne va pas pouvoir tout étudier, mais on va passer un moment à suivre les pas de Jésus depuis le début de l'année. Alors aujourd'hui, ça va vraiment être le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau, le lien entre l'attente du Messie et ce que le Messie a accompli. Et avant de commencer cette prédication, il y a encore un petit cadeau de Noël, si je peux dire ça comme ça. Je vais vous passer une vidéo qui est le résumé du livre de Malachie. Peut-être que certains l'auront déjà vu. Je ne sais pas si pendant tous ces mois, quelqu'un a lu tout le livre de Malachie ou si des gens sont allés creuser un petit peu plus la matière. Mais là, vous aurez un résumé. Et puis, ensuite, je passerai à la prédication.
Il a vécu environ 100 ans après que les Israélites soient revenus de leur exil à Babylone, et son message s'adressait aux personnes qui vivaient à Jérusalem depuis un certain temps. Le temple avait été reconstruit depuis un moment déjà, mais les choses ne se passaient pas très bien. Rappelez-vous les histoires d'Esdras et de Néhémie. Quand ils sont fraîchement rentrés d'exil, les Israélites nourrissaient de très grands espoirs. Ils allaient rentrer pour reconstruire leur vie ainsi que le temple, et toutes les glorieuses promesses des prophètes deviendraient réalité. Le Messie viendrait établir le royaume de Dieu sur un Israël unifié et aussi sur les autres nations, en instaurant la paix et la justice pour tous. Mais la réalité était tout autre. Les Israélites qui ont repeuplé la ville se sont montrés aussi infidèles à Dieu que l'étaient leurs ancêtres, ce qui s'est traduit par la pauvreté et l'injustice. Ainsi, on découvre à travers Malachie le degré de corruption de cette nouvelle génération. La conception du livre représente une succession de débats, et la plupart des sections s'ouvrent sur une affirmation de Dieu pour faire un constat ou une accusation. Ensuite, Israël exprime son désaccord et remet en cause les propos de Dieu. Puis Dieu répond en fournissant les preuves. Ce cycle se reproduit 6 fois. Dans les 3 premiers débats, Dieu révèle la corruption d'Israël avant de donner les moyens d'en finir dans les 3 derniers débats. Et la leçon générale qu'on peut retenir au terme de ces discussions et débats et que l'exil n'a fondamentalement rien changé chez ce peuple, car les cœurs des Israélites sont plus endurcis que jamais. Le premier débat s'ouvre sur Dieu affirmant qu'il aime toujours son peuple d'alliance en dépit de leurs imperfections, ce qu'Israël rejette violemment en posant la question suivante. Où est la preuve de ton amour? Et Dieu de leur rappeler la grâce dont il a fait preuve en sélectionnant la famille de leur ancêtre, Jacob, pour manifester les promesses de son alliance, au lieu d'Ésaü son frère avec toute sa descendance qui a fini par être anéantie. Rappelez-vous les histoires de Genèse et du livre d'Abdias. On constate dès le premier débat qu'Israël se montre sceptique et plein de doutes concernant l'amour et la fidélité de Dieu. Le deuxième débat met l'accent sur un problème lié au second temple d'Israël. Dieu accuse les peuples de profaner et souiller le temple, ce à quoi ils osent réclamer en ces termes. « En quoi t'avons-nous profané ?» Et là, Dieu montre que les gens présentent de médiocres offrandes avec des animaux malades, boiteux et tachetés, ce qui en dit long sur le peu de valeur et d'honneur qu'ils accordent à Dieu. Cela dit, le peuple n'est pas seul en cause. Il y a aussi les prêtres qui, eux, sont responsables du temple. Non seulement ils tolèrent ces pratiques, mais ils y participent alors qu'elles sont clairement interdites dans les règles d'adoration à Dieu. En observant sous tous les angles, le peuple de Dieu prouve son infidélité dans chaque aspect. Dans le troisième débat, Dieu accuse les hommes israélites de le trahir, lui et leur épouse, et bien entendu, il nie tout en bloc. Dieu révèle donc la combinaison toxique entre l'idolâtrie et le divorce, devenue pratique courante. Certains hommes israélites épousent des femmes non israélites et se mettent à adorer les dieux ancestraux de leurs épouses auxquels ils érigent des idoles dans leur maison. Rappelez-vous l'histoire au chapitre 13 du livre de Néhémie. Et Malachie relie cela à la vague d'hommes divorçant de leurs épouses sans raison valable. Et le pire est que ça ne dérange personne, alors Malachie s'insurge en disant « Non, c'est une violation de votre alliance avec Dieu ». Malachie passe ensuite à la deuxième partie des débats visant à mettre un terme à la rébellion d'Israël. Le quatrième débat commence par les Israélites qui accusent Dieu de négligence en disant « Où est le Dieu qui fait justice ?» Ils voient l'injustice et la corruption prendre de l'ampleur aux yeux de tous et Dieu semble ne rien faire. Alors Dieu répond en disant qu'il enverra son messager pour aplanir la route devant lui avant son retour effectif au jour du Seigneur, où il viendra tel un feu pour purifier son peuple en consumant l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, l'injustice, afin que seuls les fidèles rescapés puissent à nouveau constituer son peuple. Dans ce cinquième débat, Dieu invite son peuple à revenir à lui. Ce à quoi ils répondent « Comment pouvons-nous revenir ?» Alors Dieu met leur égoïsme en lumière et montre comment ils ont cessé d'offrir au temple la dîme de leurs revenus. Le terme dîme signifie simplement un dixième. Ce dixième est calculé sur le montant de leurs revenus et profits que les Israélites sont tenus de donner chaque année pour soutenir le temple et ses prêtres. C'est une pratique décrite en divers endroits de la Torah. Et nous savons par Malachie et à travers le livre de Néhémie que les gens négligeaient cette responsabilité alors que le temple tombait en ruine. Raison pour laquelle Dieu les a mis face à leur responsabilité. Il a promis de les bénir avec abondance à la seule condition qu'ils soient fidèles. Dans le dernier débat, le peuple accuse Dieu en disant qu'il est inutile de le servir parce qu'il voit de mauvaises personnes enflées d'orgueil réussir dans la vie pendant que Dieu ne leur fait rien. Et pour la première fois dans le livre, la réponse de Dieu ne se résume pas à un discours, mais une petite histoire sur les fidèles rescapés en Israël. Des personnes qui craignent le Seigneur, qui aiment se retrouver pour échanger sur les meilleurs moyens d'honorer Dieu et de le servir. Aussi, Dieu ordonne-t-il de rédiger un manuscrit de souvenirs permettant à ces personnes de lire pour se rappeler la nature et les promesses de Dieu. Malachie fait ici une analyse sur le don divin des Écritures avec leur capacité à nous rappeler la fidélité de Dieu à travers ce qu'il a fait par le passé pour susciter en nous de l'espoir pour l'avenir. Ce qui nous amène à la conclusion du livre. Elle reprend et développe bien plus en profondeur l'imagerie du quatrième débat sur le jour du Seigneur à venir. Dieu prévient avoir arrêté un jour de jugement par purification où les méchants tapis au milieu de son peuple seront consumés. Mais la conclusion montre aussi l'avenir des fidèles rescapés, car pour eux, le jour du Seigneur n'est en rien une menace, plutôt une source de joie. Ce sera comme les rayons du soleil levant qui apportent guérison, vie et espoir pour l'avenir. Alors que les débats de Malachie arrivent à leur terme, on réalise que ce livre a encore des choses à révéler. Les trois derniers versets ne sont pas liés au débat et en fait, ils servent d'annexe finale, venant clôturer non seulement le livre de Malachie, mais aussi toute la collection de la Torah et des prophètes. Tout d'abord, le lecteur est invité à se souvenir de la loi ou, comme mentionné, la Torah de Moïse, mon serviteur. Pour rappel, c'est l'histoire et les lois de l'Alliance figurant dans les cinq premiers livres de la Bible. Et on découvre par la suite le résumé des livres des prophètes. « Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour du Seigneur arrive qui tournera le cœur du peuple de Dieu. » Cette conclusion rassemble la Torah et les prophètes, telle une histoire unifiée tournée vers l'avenir. Le peuple d'Israël a été racheté par Dieu, mais ils l'ont trahi par leur rébellion et leur cœur endurci en enfreignant les lois de la Torah. Mais les Écritures se projettent sur un jour à venir, où Dieu enverra un prophète d'un nouveau type, semblable à Moïse et Élie, et qui rétablira le peuple de Dieu et guérira son cœur endurci. Rappelez-vous toutes les promesses de Deutéronome, de Jérémie et d'Ézéchiel. C'est pourquoi cette annexe finale présente les Écritures comme un cadeau de Dieu à lire, à méditer, à utiliser comme base de prière. Car elle traite véritablement et en profondeur de la condition humaine, de notre égoïsme et de notre péché. Mais elle annonce également la promesse de Dieu qu'un jour, il enverra un messager et descendra en personne pour triompher du mal, restaurer son peuple et établir sa justice réparatrice. Et cette espérance à venir est le principal but dont il est question dans Malachie, la Torah, ainsi que tous les écrits des prophètes.
Voilà. C'est pas forcément facile de passer à une prédication après avoir vu une vidéo. En fait, j'aurais même pas besoin de prêcher parce que vous avez vu la fin du livre, donc c'est facile pour moi. Mais en fait, si vous regardez, j'ai déjà prêché 6 fois sur Malachie. Et là, en 7 minutes, vous avez eu le résumé de tout le livre. Et dans ce que j'ai prêché, il y aurait eu tellement plus à dire. Il y avait tellement d'autres pépites, des choses tellement importantes. Et en fait, on ne peut pas tout dire dans une prédication. Mais ça montre combien la parole de Dieu est riche. On peut prendre un tout petit texte et il y aurait tellement à dire. Et tellement. Alors, c'est pour ça que je vais quand même prêcher ce matin sur la fin du livre, même si vous en avez eu déjà un avant-goût. Alors, je vais vous lire les derniers versets. Dans ma Bible, j'ai Louis II, 78. On est dans le chapitre 4, mais dans certaines Bibles, c'est à partir du chapitre 3. Tout le monde n'a pas numéroté de la même manière. Donc, si vous êtes dans une Bible où il y a seulement 3 chapitres, c'est à partir du verset 19. Et puis pour les autres, c'est le chapitre 4, les versets 1 à 6. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre, sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alors reprenons le début de ce passage. Voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume, ils seront consumés complètement. Il y a marqué que ça va des racines aux rameaux, ou des rameaux aux racines, c'est-à-dire les extrémités. Tous les méchants dans leur entier seront détruits. Malachi, il a déjà parlé du jugement, et il reprend ce thème. Et je ne sais pas, mais parfois quand Dieu se répète, parfois c'est parce que on est un peu lent à comprendre. Parfois, le Seigneur a besoin de nous répéter des choses. Le problème, c'est que le thème du jugement, ce n'est pas forcément notre sujet préféré. On préférait qu'on nous parle d'autre chose que d'un jugement. Mais dans la parole, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, c'est un thème qui revient régulièrement. Et pourquoi est-ce qu'il vient régulièrement? Eh bien, parce que c'est une sorte de point de chute, c'est une sorte de point d'orgue. Le jugement, c'est quelque chose qui va vraiment arriver pour de vrai, et c'est important de s'y préparer, justement pour ne pas passer en jugement, mais pour pouvoir entrer dans les rayons du soleil de la justice. Parce que dans ce premier passage, dans les versets 1 à 3, il y a ces deux choses en fait. Il y a une fournaise ardente, c'est quelque chose qui brûle, qui est extrêmement chaud, qui est extrêmement violent, et qui consume tout, qui détruit tout, mais il y a une autre source de chaleur. Au verset 2 du chapitre 4, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Il n'y a pas de quoi avoir peur du jugement. Le jugement, il est pour ceux qui ne craignent pas Dieu. Parce que le soleil de la justice, il est là, il est à disposition pour ceux qui ont la crainte de l'Éternel. Ce qui fait que quand on croit au Seigneur Jésus, quand on veut conformer notre vie à la sienne, on est bénéficiaire du soleil de la justice. Les personnes qui passent en jugement, c'est ceux qui sont rebelles à Dieu, c'est ceux qui ne veulent pas lui obéir, c'est ceux qui le refusent, c'est ceux qui font consciemment les choses qui vont contre sa volonté. Ce qui fait qu'on ne devrait pas avoir peur. Ça ne devrait pas être un sujet qui nous dérange. Mais quand on en a peur, eh bien parfois c'est parce qu'on a des choses à mettre en ordre dans notre propre vie. Parfois notre conscience nous accuse et c'est bon d'aller un peu chercher à l'intérieur de soi pour se dire mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois mettre en ordre? Et on a toujours la possibilité de retourner vers le Seigneur pour lui demander pardon. Et d'autres fois, c'est l'orgueil qui nous crée de la misère parce qu'on croit qu'on doit mériter notre salut. On a l'impression qu'en fait, si on n'est pas assez bon, on ne peut pas être sauvé, on ne peut pas bénéficier de la grâce de Dieu. Et en fait, de toute façon, on ne peut pas. De toute façon, on ne peut pas mériter notre salut. C'est par grâce que Jésus s'est sacrifié pour nous. Alors, il y a juste un déclic à faire dans la tête pour se dire, mais oui, moi, j'aime mon Seigneur et je m'applique à lui obéir, à le suivre, à le respecter. C'est ça la crainte de Dieu, c'est un profond respect, c'est pas une peur, mais vraiment le respect de Dieu. Alors oui, je bénéficie des rayons du soleil de la justice. Qu'est-ce que c'est que ce soleil de la justice? Alors on sait aujourd'hui que c'est Jésus-Christ. Du temps de Malachie, c'était peut-être un peu plus compliqué de savoir exactement ce que ça signifiait. Nous, on sait que c'est Jésus-Christ et on sait qu'il est déjà venu. Alors parfois, on s'attend à ce que la guérison soit sous ses ailes. On aimerait être restauré pleinement, entièrement, déjà maintenant. Mais déjà sur terre, en fait, on a les prémices. Le Seigneur nous guérit, le Seigneur nous restaure. Mais il y aura à un moment donné une guérison totale. À un moment donné, il y aura une restauration pleine et entière. Et ça, c'est pour l'avenir. Et c'est vers cet avenir-là que tout pointe dans la parole. D'une part, le jugement pour les méchants, et d'autre part, la restauration pleine et entière pour les enfants de Dieu. Le soleil qui éclaire. Imaginez, par exemple, on est en décembre, fin décembre. C'est vrai que les jours remontent, mais ça ne fait pas longtemps. On est dans les jours les plus courts de l'année. Eh bien, imaginez, par exemple, dans les pays nordiques, à 8h, 9h, 10h du matin, il fait toujours nuit. Imaginez si le soleil ne se lève pas. Vous savez que vers 8h maintenant, il commence quand même à faire jour. Ben non, 9h, il fait toujours tout nuit. 10h, il fait nuit. 11h, il fait encore nuit. Midi, encore de l'obscurité. Est-ce que vous arrivez à imaginer? C'est parce que le soleil se lève tous les matins, qu'on a de la lumière, qu'on peut vivre, que la végétation peut pousser, que nos corps sont en vie. Dans les pays nordiques, ils installent des néons spéciaux, de la lumière spéciale. Les gens vont faire des cures de lumière pour remonter leur morale parce que sinon c'est trop difficile. Le soleil de la justice, il nous donne la vie, il nous donne la chaleur, il nous donne tout ce dont on a besoin pour vivre, pour nous épanouir, pour être en bonne santé. Et quand il est dit, vous sortirez, vous sauterez comme les veaux d'une étable. Eh bien, quand j'étais petite, j'habitais au Val-de-Rue, dans un village juste à la lisière des champs, et je voyais la ferme à quelques centaines de mètres. Et au printemps, quand enfin on pouvait sortir le bétail, eh bien, il fallait voir les vaches, les genisses, les veaux. Moi, j'étais petite, je ne sais pas ce que c'était à ce moment-là, mais il fallait les voir. Le bétail, il est en folie de joie de pouvoir sortir enfin de l'étable. De pouvoir sauter, gambader, on voyait que c'était la fête. Et c'est vraiment cette illustration-là. Il y a un moment donné, quand le soleil de justice viendra, mais on sera tellement bien, on sera insouciant. On sera insouciant de cette poussière qu'il y aura sous nos pieds. Il y a marqué qu'en fait, c'est les méchants qui seront consumés, qu'on va fouler par la plante de nos pieds, c'est-à-dire toute cette méchanceté, toutes les œuvres du diable, on va les fouler sous nos pieds, mais on ne se rendra même plus compte, tellement on sera joyeux d'être dans la lumière, d'être à l'extérieur, de sortir de l'obscurité. Alors, Malachie nous parle de quelque chose qui aura lieu dans un avenir lointain, dans un avenir très lointain, quand on pense que ça a été écrit environ 400 ans avant la naissance de Jésus. Mais alors, pourquoi, dans le passage juste après, il nous parle de Moïse et il revient en arrière dans le temps? Je vous lis au verset 4 et 5. « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Qu'est-ce que Moïse, qui a vécu il y a des siècles et des siècles, vient faire là? Et qu'est-ce que Élie vient faire là avec Moïse alors qu'ils ne sont pas nés au même siècle? Pourquoi? Eh bien, en fait, Moïse, il est allé en Horeb. Horeb, c'est le mont Sinaï. C'est là que Moïse, il a connu la présence de Dieu, qu'il a reçu la loi. C'est là qu'il a reçu tous les principes qui nous montrent, qui nous indiquent comment honorer Dieu, comment respecter Dieu, comment se comporter dans la vie sociale, dans la vie familiale, comment établir le culte, vivre le culte, comment donner notre adoration à Dieu. Parce que ce que Moïse a reçu, ce n'est pas juste les 10 commandements. Ce que Moïse a reçu, et c'est ce qui est spécifié quand on parle de Moïse d'une manière générale, c'est la loi. Et la loi, ça représente les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Tout ça, en fait, c'est le nom générique, c'est la loi. Et c'est là qu'il y a tous les principes éthiques de Dieu. Alors quand Dieu dit « Souvenez-vous de la loi de Moïse », il revient en arrière pour dire « Mais souvenez-vous de tous ces principes parce qu'ils sont toujours actuels. Ça n'a pas changé. » Alors on ne nous demande pas de lire tout le livre des Lévitiques et d'appliquer à la lettre tout ce qui est écrit. Aujourd'hui, ce livre, il nous donne des principes pour qu'on puisse comprendre les choses, pour que dans notre quotidien, on puisse les appliquer. Si je prends un exemple concret, dans la loi de Moïse, à un moment donné, il y a beaucoup de lois agricoles. Il y a marqué, par exemple, qu'au moment de la moisson, il ne faut pas tout moissonner, mais les bordures du champ, il faut les laisser. Il faut laisser des épis, il faut laisser de la moisson pour que les personnes défavorisées puissent aller glaner. Et ça, c'est un principe biblique. D'une part, faire l'aumône, ça, c'est un principe biblique. Donner aux pauvres, donner aux nécessiteux, c'est un principe biblique. Mais laisser les gens qui en ont la capacité de glaner, c'est aussi un principe biblique. Ça veut dire que quelqu'un qui en a la possibilité, il va pouvoir aller gagner son pain. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Eh bien, si t'as une petite entreprise, tu peux créer un poste, quelque chose qui va servir à une personne qui a de la peine à tourner pour pouvoir lui permettre de gagner lui-même son revenu. Si tu as un grand jardin, eh bien, tu peux demander à quelqu'un de venir t'aider pour qu'il puisse repartir avec ses légumes sous le bras. Et ça va l'honorer, ce sera gratifiant. Il y a des lois comme ça dans la parole qu'on peut encore appliquer aujourd'hui. Ça, c'est un petit exemple, c'est le glanage. Mais il y a beaucoup, beaucoup de lois qu'on peut appliquer. Donc, quand on lit la parole, il faut aller se dire, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, Malachi il continue avec cette espèce de mouvement d'aller-retour entre le très loin avenir, entre le passé lointain. Et là, il est toujours dans le passé, mais un peu plus proche, et il parle d'Élie. Élie, il a vécu à la période des rois. Donc, il vient après Moïse. Mais il y a quelque chose de similaire entre Élie et Moïse. Élie, il a persévéré à ramener le peuple à la même foi ou la même religion, entre guillemets, que Moïse. Élie, si vous vous souvenez, c'est lui qui a trucidé tous les prophètes de Baal et des Astartés. C'est lui qui a prouvé qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu et que les idoles ne sont rien. Élie, c'est celui qui persévérait pour ramener le peuple vraiment au cœur de Dieu. C'est lui qui voulait faire respecter les exigences éthiques de la loi de Moïse. Et je vous lis dans 1 Roi, si vous voulez relire l'histoire d'Élie, allez dans 1 Roi à partir du chapitre 17. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Mais là, je vous lis juste un verset dans 1 Roi 18, le verset 37. Et c'est Élie qui parle. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Voilà le ministère d'Élie, c'est de faire connaître au peuple que seulement l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a qu'un, et il intercède auprès de Dieu pour que le cœur du peuple soit ramené à Dieu. Et à un moment donné, après que Élie ait tué tous les prophètes de Baal, il a été complètement désespéré, il a eu un coup de mou. Et il a marché pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert. Et où est-ce qu'il s'est retrouvé? À Horeb, dans le Sinaï, au même endroit que Moïse. Et là, quand il était à Horeb, il a rencontré Dieu. Il y a eu un orage, il y a eu une tempête, il y a eu beaucoup de choses. Dieu n'était pas là-dedans, mais à un moment donné, il y a eu un doux murmure. Et c'est là que Dieu lui a parlé, c'est là que Dieu lui a dit, va à tel endroit, tu vas oindre telle personne pour devenir roi. Va à tel endroit, tu vas oindre Élisée qui va te remplacer, qui va te succéder. C'est en Horeb que Élie a reçu les prescriptions de Dieu pour la suite. Alors si on regarde tout ce qui concerne Moïse et tout ce qui concerne Élie, eh bien en fait, c'est une façon de présenter tout l'Ancien Testament, c'est-à-dire la loi et les prophètes. Or bien sûr, vous me direz, mais il y a encore les psaumes, etc. Oui, mais souvent, même Jésus, quand il utilise cette expression, la loi et les prophètes, ça veut dire tout l'Ancien Testament. Et là, Malachie nous dit, mais revenez à ce que Moïse vous a dit et revenez à ce que Élie vous a dit. Revenez à tout ce qui se trouve dans la parole écrite de cette époque. Alors pour nous, la question, quand est-ce la dernière fois que tu es allé en Horeb? C'est quand la dernière fois que tu es allé dans la présence de Dieu, juste toi et Dieu, pour qu'il puisse parler à ta conscience, qu'il puisse parler à ton cœur, pour te donner des directions, pour te dire, il faudrait que tu fasses ça, ou il ne faudrait pas que tu fasses ça, ou il faudrait que tu écrives à telle personne, ou ce serait bien que tu ailles rendre visite à un tel, ou... Est-ce que tu as déjà pensé que tu arrives au bout d'une saison puis qu'il faut que tu te reconvertisses professionnellement? Ça peut toucher à tellement de domaines. C'est là aussi que Dieu nous dit, mais est-ce que tu penses toujours à protéger la veuve, l'orphelin, l'étranger, le pauvre? C'est des choses qu'on sait, la théorie, on la connaît, mais c'est quand on va en Horeb que Dieu nous dit comment. Par exemple, à la période de Noël, ça a commencé en novembre, presque tous les jours, dans votre boîte aux lettres, je ne sais pas, mais dans la mienne, il y a bien marqué pas de publicité, mais par contre, qu'est-ce que j'en ai reçu des demandes de financement? En fait, il y a tellement de besoins sur la Terre, il y a tellement de besoins dans la région, il y a tellement de besoins que presque tous les jours, on reçoit des appels de dons. Et c'est des œuvres qui sont bonnes. Moi, j'aurais envie d'aider tout le monde, mais je sais que je ne peux pas. Et bien, c'est quand je vais en Horeb que le Seigneur me dit, tu vois, ce serait bien que tu donnes à cette œuvre-là. Et puis, tu peux donner telle somme. Je ne te demande pas de donner à tout le monde. Je sais bien que tu ne peux pas. Mais j'aimerais que tu soutiennes en particulier cette œuvre. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple où je respecte la loi dans ma réalité et dans mon actualité de 2020, bientôt 2021. Et je vous enverrai Élie. Encore ce mouvement. Malachie a parlé d'Élie, c'était dans le passé, mais il utilise un verbe au futur. Je vous enverrai Élie, ça veut dire que Élie qui est déjà venu doit revenir encore une fois. Alors pourquoi est-ce qu'il enverra Élie? Parce que il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Je vous reprends le verset que je vous ai lu tout à l'heure, dans 1 Roi 18, verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramèneras leur cœur. Élie ramènera le cœur des pères à leurs fils, à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères. Et ce que l'on sait, c'est que ce ministère d'Élie deviendra le ministère de Jean-Baptiste. Donc là, Malachie, il est en train d'annoncer le ministère de Jean-Baptiste. Et je vais vous lire la visitation de l'ange Gabriel à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, dans l'évangile de Luc. Justement, là, on a vraiment le lien, la transition. Donc 400 ans après Malachie, l'ange Gabriel visite Zacharie Et voilà ce qu'il lui dit. L'ange parle à Zacharie et il lui dit, de Jean-Baptiste, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » On a de nouveau ce fait de ramener le cœur des enfants à leurs pères, de ramener le cœur des pères à leurs enfants. Et c'est ce que Jean-Baptiste a fait. Comprenez bien, souvent dans nos prières, quand il y a des problèmes de famille, on prie ces versets pour que le cœur des pères soit ramené à leurs enfants et qu'il y ait des réconciliations dans les familles. Mais en fait, si on étudie bien ces textes, ce n'est pas une question de famille. C'est une question beaucoup plus large. C'est une question de peuple. En fait, ce que Jean-Baptiste a été appelé à faire, ce que Élie a fait, c'est de ramener le cœur d'une nation rebelle au cœur, à ce qui motivait le cœur de leurs prédécesseurs, de leurs pères spirituels, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, de David, d'Élie, de ceux qui ont cru en l'Éternel, de ceux qui ont eu la crainte de l'Éternel, de ceux qui ont obéi à l'Éternel. C'est ça, le retour du cœur des pères à leurs enfants, c'est revenir à ceux qui ont mis Dieu en priorité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire respect et obéissance. Jean-Baptiste a préparé les cœurs. Il a prêché un message de repentance une fois que Jésus était né, une fois que Jésus allait commencer son ministère. Il n'y a pas tout le monde qui a cru, il n'y a pas tout le monde qui s'est repenti, mais il y en a beaucoup qui l'ont fait. Et c'est toujours cette notion de reste. Dans toute la population, il y a un reste. Et même dans l'Église, il y a des gens qui sont tout feu, tout flamme, et il y en a qui s'éloignent. Et il y a toujours un reste, il y a toujours un reste qui tient ferme. Et c'est ce reste aussi qui porte les autres, qui intercède pour les autres, qui essaye d'être des exemples, des témoins pour les autres, pour être un encouragement pour les autres. Et savez-vous ce que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a prophétisé sur Jésus? Avant que Jésus naisse, je vous lis dans Luc, premier chapitre, à partir du verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. En marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Voilà ce qu'il en est de Jésus. Quand on sera dans sa lumière, tous les jours de notre vie, tous les jours de notre éternité, nous allons le servir. Et Zacharie continue sa prophétie. Et là, il prophétise sur Jean-Baptiste et il dit « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. » Le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Malachie nous a annoncé qu'il y aurait le soleil de la justice. Et Zacharie prophétise sur Jésus qu'il est le soleil levant. Lorsque Jésus est né, lorsque Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, c'était le soleil levant, le soleil qui commence à se lever. Au moment de la fin, quand Jésus reviendra, ce sera le soleil de justice dans tout son éclat. Alors si Jean-Baptiste a préparé un chemin, où est-ce qu'on en est, nous, de la préparation de nos cœurs? Aujourd'hui, non seulement Christ est venu, Dieu s'est incarné pour nous rejoindre dans notre humanité, Il s'est sacrifié pour nous sauver de la mort. Non seulement le soleil levant, le soleil de la justice nous a visités, mais bientôt nous serons dans ses rayons. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire pour préparer nos cœurs? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour être prêts pour ce moment-là? Qu'est-ce que nous pouvons faire dans tout le temps qui nous reste à vivre sur cette terre pour mettre en application tous les principes éthiques, tous les commandements, toute la mentalité de Jésus dans notre vie? Mais je vous propose juste de prendre quelques instants juste pour réfléchir à ça. Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que je pourrais faire pour marcher vraiment avec toi, comme toi, pour être prêt à ce moment où tu reviens? Merci Seigneur mon Dieu pour ta parole, merci. Merci Père éternel parce que tout se tient. Merci parce que tout se tient, parce que ta parole, elle est unie, ta parole nous parle, elle est vivante. Ta parole nous enseigne. Merci pour les principes de vie que tu as mis dans ta parole. Et merci pour Jésus-Christ, notre soleil de justice. Je te demande par ton Saint-Esprit de venir illuminer nos cœurs pour qu'on puisse comprendre ce que tu attends de chacun d'entre nous, que nous puissions comprendre comment cheminer avec toi, Jésus-Christ, comment craindre ton nom, comment obéir à ta loi, à tes principes éthiques, comment te servir et comment nous préparer pour le jour où tu vas revenir. Je te demande, Saint-Esprit, de nous illuminer, de nous aider chacun là où on en est, selon nos difficultés ou nos facilités, selon nos combats, nos tempêtes, selon nos manquements ou selon les joies que tu nous donnes, selon ta grâce, selon les compétences que tu nous as données. Je te demande de nous aider à continuer notre cheminement avec toi pour aller toujours plus proche de ton cœur, toujours plus au cœur de ta volonté et toujours plus capable d'entendre ta voix, de comprendre chacun personnellement comment tu nous parles. Merci Seigneur, merci pour ta grâce dans nos cœurs. Merci parce que tu es le soleil de justice. Merci Jésus d'avoir payé le prix fort pour que nous puissions être avec toi, pour que nous puissions échapper à ce jugement mais nous réjouir en toi. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen.
Amen.